Collision paillettes. Julie Morin. Le jour où j'ai décidé de parler de toi, j'ai eu envie de commencer comme ça. Un type rentre chez lui et des gars lui tombent dessus. Ils le frappent, lui mettent la tête dans les chiottes en hurlant et l'un d'entre eux pisse sur le tapis du type. Pas sympa. Tout ça à cause d'un nom. Lebowski. Du coup, le type va chercher le responsable du tapis souillé. C'est comme ça que je résume le film avec cette phrase culte. Il a pissé sur mon tapis. Le dude est indigné, il part en croisade pour réparer cette injustice. Il a un flegme impressionnant, pourtant il est en colère. Et bien sûr, ça dégénère. Et c'est drôle. Voilà la scène qui me fait penser à toi. Oui, c'est de toi que je parle. I'm talking to you, toi, la colère. Depuis un moment que je veux t'écrire cette lettre, une pluie de textes et de prises de parole me sont parvenues te concernant. Tu es donc célèbre et tout le monde parle de toi. Je peux pas dire que je t'apprécie, mais comme tu continues à te coller à moi, il est temps de mettre les choses à plat. Qui es-tu vraiment? Tu t'appelles colère, on te nomme aussi rage, fureur. Contre qui te déchaînes-tu? Contre quoi? Incarnes-tu des idées? Que se passe-t-il en nous lorsque tu es là? As-tu une odeur? Une couleur? Ouais, j'ai envie qu'on se mette à table, toi et moi. Qu'on se raconte droit dans les yeux comment on s'est rencontrés, comment on vit ensemble. Pourquoi tu ne me lâches pas? Je veux comprendre les faits qu'on a l'une sur l'autre depuis qu'on se connaît et raconter dans ce Big Bang sonore nos aventures communes. Chapitre 1. Toi et moi, une histoire de ma colère et mes tentatives de me calmer. Si tu étais un personnage, je vois un grand type qui devient vert et qui hurle. C'est Hulk, un énième mec qui sait pas se contrôler, qui souffre de son passé et qu'une femme va devoir sauver en l'aidant à se comprendre. Enfin, ça me fait surtout marrer de voir un gars vénère déchirer son futal à chaque pétage de plomb. Tu entends le son des fringues qui craquent parce que le gars est vénère? Sans doute parce que ses pétages de plomb lui coûtent une blinde en pantalon. Ces scènes m'ont marqué quand j'étais gosse. Mais pour moi, tu n'es pas verte, colère. Tu es rouge et orange comme le feu. C'est la scène de fin du roman Carrie de Stephen King. Rouge comme le sang déversé sur son visage. Sur la scène du bal de promo. Orange comme le feu qu'elle déclenche grâce à ses pouvoirs. Feu sur tout le monde. Tout cramé. Lorsque je lis ce roman, j'ai 14 ans et je suis Carrie, en empathie totale avec les humiliations qu'elle subit et la vengeance. Je comprends que l'expérience ultime de toi, c'est tout cramer. J'éprouve un grand feu intérieur sans pouvoir passer à l'acte, ni l'exprimer. Je découvre plus tard que c'est toi. Tu es là, tout contre moi depuis très longtemps. Tu me parles en permanence, mais je ne te reconnais pas. Alors, je te vis par substitution dans la littérature. Pour moi, tu t'appelles rage, et je dois te calmer. Ce que je veux, rugir, exploser, hurler. Ce que je fais, parfois je me lâche. Ça me saoule, j'en ai marre. Estoy hasta el coño. Fais chier, et c'est tout. Ce que je ressens à l'intérieur, je boue, j'enrage, j'exulte, je fulmine. Mais surtout, je serre les dents, je rumine et surtout, j'étouffe, littéralement. Si ton poison m'a contaminé après d'autres, je comprends qu'il va me falloir t'exprimer pour passer de toi, rage, à toi, colère. Il y a quelques semaines, je tombe sur cet extrait de « Mon nom est Elisabeth » par Adèle Yonne, un roman-essai sur l'histoire de l'internement forcé de son aïeule Betsy en hôpital psychiatrique. Je te le lis. Je vois le visage de Betsy, son petit visage à l'œil froncé sur cette silhouette longue et mince, trop mince, des photos de jeunesse, et j'essaie de l'imaginer en colère. J'essaie de l'imaginer frapper son mari de colère, s'arracher les cheveux, rougir, baver, trembler de colère. Cette femme ne s'appartient plus. Ont-ils employé de telles expressions avant d'apposer le diagnostic de schizophrénie ? La colère est-elle encore plus inconvenante lorsqu'elle touche une femme qui, au dire de tous, était une très belle femme ? Y a-t-il une violence supplémentaire à déformer un beau visage ? La colère peut-elle être un attribut féminin ? Virginie Despentes, dans La Poudre avec Lorraine Bastide, dit « Je ne tape pas les gens, mais si je peux rentrer dans des violences. Pas d'insultes, mais des crises de rage, telles que « Même si je t'insulte pas, c'est comme si je te démolissais, et du coup, c'est comme si j'étais quelqu'un de violent. » Quand t'as des trucs de colère, t'as aucun outil pour la contrôler. La colère, les pas de mon père qui gravissent l'escalier, la force avec laquelle ses talons frappent les marches comme indicateur de la catégorie de fessée qui va suivre. La menace de la fessée, main brandie, la fessée sur pantalon, ou la pire, la cul nue. Il dit que c'est pas arrivé souvent, je ne le crois pas. La colère, la glotte de ma sœur qui vibre au fond de sa gorge, impossible de l'arrêter, sa voix est si aiguë. Je me demande comment la glotte fait pour ne pas exploser. Ma sœur est traînée par le bras, l'eau glacée est ouverte au-dessus de sa tête, elle se tait d'un coup. Mon père dit que ce n'est arrivé qu'une fois, je ne le crois pas. La colère. Je prends une chaise et l'abats sur ma sœur. Quel mot a-t-elle dit ? Quel mot a-t-elle encore dit ? Je me souviens seulement du son sourd quand le bois heurte son épaule. Je me dis, ce n'est arrivé qu'une fois. Elle ne me croit pas. La colère. Une pile d'assiettes saisie sur la table de la salle à manger et projetée à terre. Mon père ou moi ? Le bruit quand elle se brise. La colère. Je hurle sur ma mère. Tout d'un coup, je me vois hurler sur ma mère. Ce n'est plus moi qui hurle, mais la voix continue à vociférer. Ma mère dit que je suis toujours en colère. Je lui dis qu'elle, elle pleure tout le temps. La colère. Mon père m'ordonne de quitter la maison et dit « Tu n'es pas chez toi. Je pars. J'ai 17 ans, j'ai la rage. » Je lui écris une lettre qui commence par « Mon père est un assassin. » Ce que dit Adèle Yonne, c'est que tu nous es interdite. C'est aussi ce que défend Mai Hua, qu'on va retrouver plus tard.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite.
Je finis par entendre ce que tu me hurles depuis tout ce temps. Toutes les raisons de ta présence et dont tu te nourris. Il y a un dénominateur commun. L'injustice. Il est temps d'agir, mais pas seul. Pas comme avant, quand je me place entre la bande de garçons qui tapent et la seule fille, pendant que le reste de la cour regarde. Non, là, je choisis mon camp. Celui qui lutte contre les inégalités et l'oppression. Je te regarde bien en face, je t'attrape par le bras, et je sors dans la rue dans la foule. Sous les paillettes, la rage. On est des centaines. Tu enfles et tu grondes entre les cris et la marche. Je te vois grâce aux autres. J'ose chanter les slogans. Je retrouve des amis, rencontre des camarades. On s'organise, on agit. Et tu es là, ma colère chérie, rayonnante, car tu existes. Élise Thiébaud, autrice de la newsletter Nouvelle Lune, à propos de la Journée internationale de la ménopause, dit « Ces journées internationales sont les petits tombeaux de nos combats politiques, des enterrements de troisième classe pour nos colères et nos revendications légitimes. Si ça me met en colère, mais bien sûr. Et pour changer un peu, la colère est politique. C'est elle qui m'indique que tout ment, tout le monde ment. Moi aussi je mens, par paresse ou par peur de ne pas être aimée. Et ce manque de justesse est la racine même d'un manque de justice qui aboutit toujours au pire. » Élise affirme « tu es politique » et t'exprimer, c'est être juste. Dans le sens de justesse et de justice, c'est rétablir l'équilibre. Je ne me sens plus seule à vouloir une vie digne pour tous et toutes. Je sors de la soumission. L'engagement me met en joie. C'est comme ça, et c'est comme ça que je te perds de vue dans la foule. J'ignore alors que ton ombre me suit et que tu attends ton heure sagement. Un matin, quelqu'un sonne à ma porte. C'est toi. Je ne te reconnais pas tellement car je vis dans un brouillard. Tu me fixes de tes yeux sombres et tu jubiles de voir mon visage se froncer, mon corps se durcir et mon diaphragme se bloquer. Je comprends ce que tu veux, tu m'attrapes à la gorge. Pas un son ne m'échappe, pas une parole. Tu t'appelles rage et maintenant, colère noire. Celle qu'on m'a fait vivre de l'extérieur. Maintenant, tu veux que je t'éprouve dans ma chair. Comme dans un bon film d'action, tu réclames justice. Alors, je deviens John Wick. Je descends la cave et je décèle la dalle de béton sur toutes mes armes. Feuillets, imprimés, ici des formulaires, là des dossiers. Je colle des étiquettes. J'appelle mon staff avocate, assaut, bande de meufs. Ma version des détonateurs, des guns, et couteau aiguisé de Kenyon Reeves, tueur à gages. Je suis la tueuse à gages. Je te regarde. Tu hoches la tête. Tout à coup, j'attrape mon manteau et je me jette dehors dans la nuit et le froid de la ville. Les lueurs blafardes des lampadaires me strient lorsque je passe dessous et j'avance, le pas long, brutal, le souffle haletant. Des silhouettes sombres arrivent sur moi et je cours et je tire. Je ne manque aucune cible qui arrive par dizaines. Fuir, se défendre, attaquer. Je suis John Wick. Fuir quoi? La machine, les monstres, la mafia. Fuir, la perte de contrôle et la destruction. La violence subie. Fuir pour survivre. Pendant les accalmies, nous devenons intimes. Nous ne nous quittons plus. Tu observes tous mes faits et gestes. Au milieu de la nuit, tu me secoues brutalement. Je me réveille et veille jusqu'à l'aube. Je t'écoute et je fais tout ce que tu me dis. Tu vis chez moi. Je te nourris. Je te rassure. Je te rumine chaque jour, comme Edmond Dantès dans sa cellule. Je rumine les moments de ma vengeance.
Tous les incendies, dis mon cœur, tu le vandalises. Et tu veux que je te le fiche.
Colère, je te vois.
Je simplifie le sujet de la colère en distinguant deux variantes. Donc la colère sale et la colère saine. La colère sale, c'est quand vous insultez. Votre objectif, c'est d'écraser, détruire, de faire du mal ou de soi-disant remettre les pendules à zéro. C'est lorsque vous devenez violent, y compris physiquement, et faites tout ce qui vous permettrait de faire du mal en signe de représailles. La colère saine, elle est beaucoup plus zen. C'est une expérience complètement différente. Quand vous arrivez à faire passer un message, si on part du principe que la colère est une réponse à une insulte, à la transgression d'une limite, il ne s'agit pas de faire du mal à l'autre pour exprimer votre colère. Il ne s'agit pas d'agresser, il ne s'agit pas de violence non plus. Bah, on pourrait d'ailleurs faire une vidéo sur les différences entre la violence et la colère. Ce n'est pas pareil. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Elles deviennent allergiques à la colère parce qu'elles ont vu des gens être violents et confondent ça avec la colère. Dans la colère saine, il s'agit d'informer à quelqu'un qui vous a fait du mal, mais sans vouloir le détruire en retour.
Voilà donc tes deux visages. Enchantée, colère saine. Ravie de te rencontrer. Mai Hua, réalisatrice, décrit 8 étapes pour la longue marche vers toi, colère. Donc la première étape, se réapproprier ce qui nous a été interdit, c'est-à-dire toi. Puis elle propose de libérer ton énergie. Pour elle, la colère nous sauve de l'apathie. Elle dit que, selon son compagnon, le même Jerry Hyde, psychologue que nous venons d'entendre, quelqu'un qui n'est jamais en colère est comme une maison avec la porte et les fenêtres ouvertes en permanence. Ce qui est dangereux parce qu'on laisse des tonnes de choses toxiques entrer, sans même les voir comme telles. Elle devient une personne anastrophique, le contraire de catastrophique, quelqu'un qui se met en danger sans en être consciente. Round one. Fight. Pour t'expulser, j'ai un jour décidé de devenir championne de boxe en mettant des gants. Et j'ai arrêté brutalement quand un grand type très motivé me mit un pain dans la tête. Attention, hein, en mode sportif. Bon, en fait, je n'avais pas préparé ma défense. Mes bras étaient restés en ouverture au lieu de faire barrage.
Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up joint encased in case I need it.
Je reprends l'extrait de Mon vrai nom est Elisabeth. Je me souviens de la colère. À un moment, la colère a cessé d'exister autour de moi pour entrer en moi. Au commencement, la colère me laissait incrédule. Mais désormais, ce qui advient après la colère, non pas après, ce qui advient au milieu de ma colère, ce qui s'ouvre en son centre comme un trou noir, c'est qu'au fond de moi, la question se pose, se dépose d'abord doucement, sans trop insister, parce que je suis une femme, parce que j'ai bientôt 30 ans, parce que je viens d'une certaine famille, parce que j'ai reçu une certaine éducation, disons, la question se pose en partie pour ces raisons factuelles, biographiques, qui me rapprochent de Betsy et en partie pour d'autres raisons sociales, structurelles, qui m'apparaissent dorénavant évidentes, la question s'impose finalement à moi. Aurais-je pu être jugée pour ces colères ? Juger est un euphémisme. Il faudrait plutôt dire « condamner sans procès ». Et à cause de cette question, le sentiment qui naît au milieu de ma colère, qui souffle sur son brasier jusqu'à me faire sortir les flammes de la bouche et des narines, c'est la rage. Une rage qui me monte de l'estomac et emporte tout sur son passage, lorsque je comprends que pour de tels accès de fureur, d'autres avant moi ont pu être jugés, c'est-à-dire, comme je l'ai écrit plus haut, condamnés sans procès. Ces colères sont comme un voyage, duquel je sors épuisée et je dois marcher longtemps dans la campagne, puis dormir une nuit entière pour que leurs souvenirs cessent de me faire trembler. Je comprends dans ces moments-là que si à ma colère répondait une autre colère, et même éventuellement une violence physique ou psychologique similaire à celle du mari ou encore à celle du père, je serais sans doute incapable de sortir de l'étage de vertige dans lequel elle me plonge. Le café m'énerve, des gens me saoulent, le taf m'insupporte. Les injonctions paradoxales, l'agressivité, les violences subies et la politique, l'état du monde, les violences institutionnelles et la victimisation secondaire en résonance avec l'histoire familiale.
Ça m'a permis de me dire, ah oui, en fait, je fais l'expérience de plein d'émotions différentes qui ne sont pas juste la colère, par exemple. Et en plus, il y a des choses qui m'arrivent à moi. et peut-être que parfois, ce qui se passe à l'extérieur, je peux faire en sorte que ça ne m'affecte pas autant que si ça m'arrivait directement. De trouver la bonne distance entre être dans le monde, être une activiste, etc. Mais en fait, il y a quelque chose aussi où si on prend tous les malheurs du monde au même titre que quelque chose qui nous arrive à titre individuel, ben, y a un moment, on ne peut plus avancer.
Amandine Gay, cinéaste et autrice féministe, invitée dans l'émission de Lorraine Bastide, vient de publier « Vivre libre » ou « Comment trouver la bonne distance entre l'extérieur et ce qui m'appartient ». Ce qui est politique et personnel, c'est apprendre à te démêler. Chapitre 3. Colère, je t'aime. Soyons amis.
On a le droit d'être joyeuse, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être surtout faible, hein, mais absolument pas forte et surtout pas en colère. Alors que quand on est en colère et qu'on n'adresse pas, ça se retourne contre nous. C'est une guerre intérieure contre laquelle on perd. Quoi qu'il arrive. Donc je me suis aperçue qu'on méritait cette colère.
Imani assume ainsi l'amertume, le conflit et la rancœur.
C'est bien de se vautrer dans la laideur, en fait, quelque part. Tu vois, j'aimerais bien être une sainte toute la journée, mais c'est pas possible. J'aimerais bien dire que je n'ai aucun sentiment d'animosité. C'est pas vrai, tu vois. Je pense qu'être une femme, c'est ça aussi. Être enragée, c'est ça aussi. C'est embrasser sa part d'ombre et sa part de lumière. Et je me suis beaucoup amusée à le faire, en fait.
Il a ras-le-bol. Ras-le-bol général, hein.
Total,
hein. C'est que là, il y en a marre, hein. Mais marre.
Mais ras-le-bol,
hein. Et on va pas se laisser marcher sur les ripatons,
c'est
hein.
Fini, c'est
alors
fini.
Attention, hein. Là, je vais vous dire qu'on va pas se faire marcher dessus, hein.
Tu vas pas.
Bon. Et attention, on n'est pas tout seul.
Mais il y en a d'autres derrière. Il hein y en a d'autres derrière, on n'est pas tout seul.
Hein.
Avec toi, je me sentais comme le journal fâché avec tout le monde, ou presque. Et je le retournais contre moi. Mei Hua indique en étape 4 les boutons qui activent sa propre colère. Moi, après l'injustice, c'est le mensonge et l'humiliation. Et tu as le droit d'être là, comme dit Imani à la sortie de son dernier album. Et j'ai le droit de t'exprimer. Je vous lis maintenant les mots d'Isabelle Sorrente. Ce n'est pas l'abstinence qui compte, c'est le mouvement, c'est la pratique. C'est le fait d'être en route. Lorsque nous les disons, les mots justes nous relient à nos désirs. Ils rendent la volonté volontaire et le désir désirable. Ils rendent la vie vivante. Lorsque nous les écrivons, les mots justes vibrent. C'est pour ça que les régimes autoritaires interdisent les livres. À cause de cette vibration. Le genre de vibration dont les légendes disent qu'elles font tomber les murs. Et puis un jour, sans que l'on sache vraiment comment, la colère s'apaise. On se surprend à respirer à nouveau. Pas parce qu'on a tout oublié, mais parce qu'on a enfin cessé de se battre contre soi. Et peut-être qu'à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, on ne se sent plus contre le monde, on s'y sent enfin à sa place.
Women deserve rage.
En 2020, une tribune dans Libé suite à la cérémonie des Césars lance une bombe dans la profession. Virginie Despentes, partant du départ d'Adèle Haenel à l'annonce du César du meilleur réalisateur, écrit « Désormais, on se lève et on se casse ».
César, faisons une maison, plutôt qu'une vitrine, une maison qui soit fière. Fière d'inclure toutes les différences. Fière pour que les jeunes qui nous regardent soient eux-mêmes fiers de la recevoir en héritage. Mesdames et mesdames, les espoirs, bienvenue dans le futur. Un futur qu'il vous appartient d'honorer par votre singularité, votre exigence envers vous-même, envers les puissants. La route est semée de doutes, de moments de fragilité et de moments de puissance. Et c'est tout ça qu'on va aimer voir à l'écran. Et c'est tout ça qu'on aimera vous voir aussi prendre à bras le corps pour vous élever contre les injustices et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Le même soir, Aïssa Maïga prend la parole devant un parterre peu à l'aise. Pour moi, ce qu'elle vient de dire, c'est mettre en place l'étape 6, te chevaucher. Te chevaucher, se lever et se casser. Prendre la parole, dénoncer, s'élever contre l'injustice et la haine, ne pas laisser tranquille. Voilà pourquoi tu es là, pour ne pas accepter tout. Tu es mon baromètre. Traverser les océans de mocheté, c'est la dernière étape dans la longue marche vers toi, colère.
Je voudrais me débarrasser de cette colère. Comment s'extirpe d'une peau devenue trop étroite, pour ensuite la broyer entre mes doigts, la faire disparaître. Quand la porte se ferme sur la petite chambre du motel, la colère prend ses aises. Je lui laisse un bout de lit. Je prendrai ma place à droite. Je ferme les rideaux épais. Je ne les toucherai plus. Je ne veux pas de la lumière blanche du jour. Ça fait quelque chose de s'enfermer avec soi et sa colère. Je sens qu'il est trop tôt pour pleurer. Il y a d'autres choses à faire et à ressentir avant ça. Je reste sage et en colère dans la chambre toute petite. Dans mon sac, ton odeur sur le col d'un pull, du café instantané et des sachets de gruau pomme cannelle. Je quitte le lit et m'allonge sur le dos par terre. La moquette me fait du bien. Je la caresse avec ma joue, mais elle ne me caresse pas en retour. Je reste sage et en colère dans la chambre toute petite, à m'étirer comme un animal docile qui attend qu'on vienne le flatter. Le premier soir, je ne peux pas dormir. La colère lirait mes mots et les avalerait avec son grand rire de bouche ouverte. Mon égo est un petit oiseau, il sursaute au moindre bruit. Je tire les draps du lit avec un air exagéré, installe mon oreiller sur la moquette. Que la colère dorme seule. Je n'ai pas peur de dormir sans elle. Je n'ai pas peur d'exister. Je voudrais t'écrire, mais quand je me retourne vers le lit, la colère est là, allongée sur le côté. Elle prend la forme d'un buste de femme aux seins ronds et craquelés. Je la fixe, droit dans ses yeux vides, et elle éclate soudainement. Des morceaux de plâtre s'amoncellent sur le lit, recouvrent le lit, étouffent le lit. Plus rien ne bouge, et la colère reste là, un chablis de pierre, pendant toute une journée qui ne passe pas. Je pousse des soupirs, je dors un peu sur la moquette, je rêve de coccinelle et me réveille assailli par la faim. Je fais face au pierrier sur le lit, ces fragments de colère. Je me retrouve là, entre l'oiseau dehors et ma colère en morceaux sur le lit. Tout semble déborder en un eau le cœur, ciment, pomme, cannelle, café. Je me jette sur le lit et je dégage les pierres, je les pousse, je les lance sur la moquette, mais il n'y a rien sous la colère. Je reprends ma place dans le lit, dispose un oreiller sous ma tête et l'autre entre mes cuisses. Je pleure et ça me fait un bien fou. Je me réveille dans la chambre toute petite. J'espérais qu'au matin la colère aurait disparu, mais elle est toujours là, fuck. Je ramasse les petits cailloux, les plus gros morceaux, les roches un peu lourdes, et je les trie, les rassemble par groupes de taille dans un coin. Une fois ma colère bien rangée, bien matée, je suis prête à t'écrire. Je dispose les pierres sur la moquette pour former des lettres, des virgules et des points, mais surtout des virgules, parce que j'ai tant de choses à dire et il faut des respirations. J'écris quelque chose qui n'est ni un poème, ni une lettre, ni un chant, ni une prière, ni un cri, mais peut-être tout cela à la fois. J'écris avec la colère, et plus j'avance, plus les pierres deviennent légères, malléables, douces. Les toutes petites, je les mets dans la bouche quand je réfléchis, histoire de voir quel goût ça a, une colère qui se calme un peu. Là, dans la chambre toute petite, quelque chose d'invisible est venu m'habiter et prendre ses quartiers, déposer son odeur. La colère, c'est tout ça. Je termine ma lettre, mon poème, mon cri, mais je n'arrive pas à mettre un point final. Au troisième matin, j'ouvre les rideaux, la rue est encore couverte de printemps. Quand je me retourne, les pierres et les cailloux sont toujours là, à croire que rien ne disparaît vraiment. J'ai taillé ma colère en petits morceaux pour t'écrire, et je sais que je t'écrirai encore des poèmes, lettres, chants, prières, cris que tu ne liras pas. Je ramasse mon sac, mais pas ma colère. Il est temps d'y aller.
Veneno, tu sais que veneno. Veneno, tu sais que veneno. Veneno, tu sais que veneno.
Dans le zen, pratique du courant bouddhiste Soto, la colère, toi, tu fais partie des trois poisons. Tu es incarné par le dieu Fudomiyo, Achala. Son nom signifie « gardien bienveillant transcendant la colère en sagesse ». Il permet de vaincre l'ignorance et les illusions. Il nous guide sur le chemin de la vérité et de la libération. Sa nature féroce représente sa détermination. Alors, ma colère, je t'aime. Et je te laisse avec Adélion pour terminer cette lettre. Comprendre ne résout rien. Quand la nièce de Betsy m'a dit ces mots, j'ai cru que par comprendre, elle entendait, comme on me l'a toujours appris, reconstituer une chaîne logique d'événements expliquant le passage d'un point A à un point B. Aujourd'hui, je sais que par comprendre, elle voulait dire accroître sa palette affective de l'expérience de l'autre. Acquérir la capacité soudaine et foudroyante de se mettre à sa place. L'histoire de Betsy m'a mise hors de moi, intensément et intégralement hors de moi. La colère y arrivait doucement, quelques jours par mois, puis quelques jours par semaine, puis elle s'est installée. Si je suis trop, est-ce que ça fait de moi une folle ? Mais même entendu ainsi, c'est vrai, comprendre ne résout rien. Comprendre transforme la souffrance en colère, et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir. Elle éventre les paravents, elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. Je veux bien croire que la peur tue, que la culpabilité tue, que le silence tue, mais je ne peux pas croire qu'on meurt d'avoir regardé la souffrance en face. Moi, en tout cas, je ne suis pas morte. Et avant que la colère que nul ne m'a prise, ne se retire de ma plage intérieure, avant que la colère, ne laissant derrière elle qu'une vague nausée qui ne me brûlera plus que le fond de la gorge, ne déserte mes rochers, mes algues et mes galets, et que ne demeure sur le sable retourné et humide de ma conscience que quelques crabes inertes au corps transparent que des mouettes affamées auront déjà évidé de leur bec, je me mettrai à écrire. Car derrière les paravents, même s'il n'y a plus rien, même si le temps a passé, qu'il ne reste que des cendres emportées par le vent ou par les flots dans le courant de la Seine, même si les souvenirs sont si anciens que seuls les paravents leur tenaient lieu de réalité, il y aura toujours quelque chose à inventer. C'était Collision Paillette sur Delta FM par Julie Morin, avec Justine Maille à la technique et à la réalisation. On entend les voix d'Aïssa Maïga, Imani, Amandine Gay et de Véronique Delomo. Vivi a conçu la couverture de l'épisode et DJ Rita suggérait des morceaux. Merci à toute la collective Brasure avec Chris, Valentine, Iris, Pauline, Chloé, Asia, Amélie, Julie, Clémence, Caro. Pour cette écriture, j'ai beaucoup puisé dans les écrits d'Élise Thiébault avec la lettre Nouvelle Lune, Isabelle Sorante, Mai Hua, Virginie Despentes et le roman essai d'Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth. Toutes les références sont sur la page du podcast. Et à bientôt dans le prochain épisode de Collision Paillettes.